Allez, c'est parti.
Okay. Bonjour, messieurs, dames. Eh ben, on a aménagé ici en 2018. Donc, la trentaine fraîche. Et on avait deux enfants jeunes, ouais. C'est ce qui a fait qu'on a cherché un logement plus grand pour accueillir la jeunesse. Ouais. Eh ben, moi, je dis pas vraiment Chantenay, je dis pas Chantenay, je dis pas Saint-Thierry, je dis pas Bellevue, en fait, je dis... qu'est-ce que je dis? Ben, dans le quartier des Castors, Saint-Yves. Et là, je dis, tu connais? Les gens disent, ben non. Ben, c'est tout au bout, dans le bout de Chantenay, pas très loin du pont de Cheviret, en dessous de Bellevue. Voilà ce que je dis. Ouais, si tu... Alors, ouais, parce que, alors, historiquement, ici, c'est Chantenay, quand ça a été construit, dans les années 50. C'était les suites de Chantenay-sur-Loire, en fait. Et après, bah, je pense que la construction de Bellevue a commencé dans les années 60. Et donc, alors, administrativement, on est sur Sainte-Anne-Chantenay-Bellevue. J'ai l'impression que c'est plus vraiment Chantenay. Pour moi, c'est le bout de Chantenay, si on considère qu'on vient du centre de Nantes, donc c'est le bout. Et que Bellevue, ça commence un tout petit peu au-dessus. Mais donc voilà, pour moi, c'est un peu entre les deux, quoi. Okay.
Okay.
Comme ça que je le vois. Ouais, ouais, bah oui, c'est un quartier qui évoque. En fait, c'est un quartier où je me plais à vivre. Donc, c'est un quartier dans lequel je me suis senti assez vite bien, puisque. Bah, du fait des liens existants, en fait, entre les habitants du quartier. Voilà, donc oui, non, ça évoque beaucoup de liens, pas mal de projets, beaucoup de relations, en fait, entre les gens, voilà. On est assez reliés, hein, dans le quartier, il y a vraiment beaucoup de choses, mais si je pense à... En fait, le truc, c'est que, voilà, le quartier, il est né, il a été auto-construit par les gens qui ont habité là, donc dans les années 50, là, 5, 56, jusqu'en 57, pendant 2 ans, 3 ans, il y a 80 familles qui ont construit 80 maisons. Avec leurs mains, ils ont fait les terrassements, ils ont posé les parpaings, ils ont fait les plâtres, ils ont fait la charpente, ils ont fait les toits, ils ont tout fait. Et je crois que ils ont pas... Sauf si je me trompe, mais on m'a pas raconté qu'ils avaient fait appel à des entreprises extérieures. Donc en fait, c'est des gens qui ont fait un peu comme à Notre-Dame-des-Landes depuis quelques années. Ils ont auto-construit parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'argent. Donc ils ont fait on fait tout seul, quoi. Et donc ça, c'est assez fascinant. Donc en fait, tous ces gens-là qui avaient une vingtaine d'années, trentaine d'années dans les années 50, ben, ils ont petit à petit disparu. Il en reste... à peine. Ici, par contre, il y a pas mal de descendants, enfin d'enfants, en fait, de castors. Mais bref, du coup, ces gens-là se connaissaient hyper bien, puisqu'ils avaient travaillé ensemble, bâti les maisons. Et voilà, donc en fait, ils ont... y a des liens énormes qui sont créés, d'amitié entre tous ces gens. Et donc voilà, en fait, c'est que voilà, c'est le fruit vraiment d'une évolution et d'une histoire, parce que du coup, ces gens-là ont commencé à partir dans les années 80, 90, 2000... 2010, et puis voilà, on a une voisine là, qui est partie en maison de retraite. Enfin, on a voilà, un des derniers castors, pardon, qui est mort il y a 6 mois, un truc comme ça. Donc ça, c'est un des derniers, et un autre qui est parti en maison de retraite. Donc tout ça pour dire que petit à petit, en fait, ces gens ont été remplacés par d'autres, mais qui, évidemment, se sont retrouvés intégrés à chaque fois dans un tissu relationnel existant déjà. Et ça a fait que, je pense que ça s'est transmis comme ça, en fait, cette espèce de lien... Des liens du genre qui se matérialisent concrètement par on bricole, on se prête du matériel, on crée. Bah, y a eu une AMAP qui a été créée ici il y a peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Il y a un festival de théâtre, de spectacle dans les maisons qui a lieu maintenant. Bon, maintenant c'est tous les 2 ans, voilà, qui est monté par les gens du quartier. Il y a un troc-plante régulièrement, ou des échanges de plantes. Il y a toujours des gens qui s'échangent des choses, en fait. Il y a des gens qui vont garder les enfants des autres, à droite, à gauche. Il y a... on a fabriqué une charrette de vélo, il n'y a pas très longtemps, à l'atelier de réparation de Chantenay, là, à partir d'un clic-clac, donc de quartier. Donc ça, c'est une charrette de quartier qu'on emprunte quand il y a besoin. Voilà, il y a d'innombrables occasions de se rencontrer pour cuisiner, pour faire des crêpes dans la rue, pour boire un coup, pour jouer de la musique, un groupe de musique de quartier.
Et donc.
Pendant le Covid, bon, dans la rue, la petite rue, là, de Kerlédé, c'est un petit coin un peu mort, enfin un peu mort, un angle mort, donc il y avait quand même pas mal de petits apéros, vu qu'on pouvait pas sortir, voilà, donc bon, ça, on se serrait pas dans les bras, on respectait des distances, mais on se retrouvait quand même régulièrement, vu qu'on était souvent, tout le monde était dans le quartier, quoi. Donc voilà, et moi je me suis interrogé sur pourquoi en fait, comment ça se fait qu'une espèce de culture qui est vraiment dans l'immatériel, dans l'impalpable, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui dit bah, on va le transmettre, les castors l'ont fait, d'origine ils l'ont fait, donc on va le transmettre. En fait, ça n'a jamais été écrit ça. Mais comment ça s'est transmis en fait tout ça? Donc je n'ai pas vraiment la réponse, mais du coup je m'imagine que en fait petit à petit c'est un certain état d'esprit qui s'est transmis parce que il y a eu des nouveaux qui se sont retrouvés intégrés avec les anciens. Et au bout d'un moment, en fait, les nouveaux étaient beaucoup plus nombreux, sont devenus beaucoup plus nombreux que les anciens, ceux d'origine. Mais malgré tout, ça a perduré. Et ça a perduré, voilà. Mais après, voilà, il y a plein de choses à dire, mais on est dans un quartier qui est excentré. Nous, on a visité différentes maisons pour acheter. Et c'est clairement la maison qui était la moins chère de celle qu'on avait vue, en fait. C'est sûrement pour ça qu'on l'a achetée. Parce qu'il y avait plein de travaux, parce que c'était excentré, parce que parce que Bellevue est juste à côté. Donc ben, je pense que ça décote les prix. Voilà. Et du coup, ça fait aussi que ça attirait des gens qui. Les gens qui avaient plus d'argent, ben, je pense qu'ils achetaient une maison dans des quartiers plus huppés. Et du coup, quoi? Ben, je sais pas. Après, ça peut être un certain état d'esprit, mais ça fait aussi, voilà, c'est que c'est aussi des populations, les gens qui habitent ici sont aussi des gens qui travaillent plutôt dans le domaine associatif, dans le domaine public, beaucoup en fait, dans le domaine artistique, il y en a beaucoup, des instits, infirmiers, artistes, ouais, comédiens, ouais. Donc du coup, ça fait. Alors voilà, pourquoi est-ce que ça fait que ce sont des gens qui sont dans l'échange, je sais pas. Puis après, c'est pas parce que non plus qu'on est dans cette catégorie socio-professionnelle qu'on échange, hein, mais en tout cas, voilà, ça a créé une dynamique et il y a d'autres gens qui bossent dans le privé aussi, mais en tout cas qui visiblement apprécient complètement s'insérer dans ce mode de relations de quartier, assez dynamique. Puis après, bah, tu restes libre de t'investir ou pas, de selon les moments de ta vie, ta disponibilité, tes envies. Enfin voilà, il n'y a pas de. Je crois qu'on s'est promené dans les rues, puis on a parlé avec des gens qui habitaient là, et qui nous ont dit les voisins se connaissaient, que c'était un quartier. C'était un quartier sympa, mais sinon, non, je connais pas. On habitait à Dalby. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que quoi? Bah, il y a eu différentes choses. Il y a eu, on a aménagé dans le bout. On pourrait aller voir là-bas, mais sur la petite placette. C'était une placette bitumée où il y avait 5 arbres en train de crever. On a monté un projet avec la ville pour débitumer et pour créer un jardin, avec dans l'idée de planter que des choses comestibles. Voilà, dans cette tendance-là, quoi. Du coup, on a monté un projet avec la ville. Ma rue est un jardin, je sais pas comment s'appelait le truc. La ville a suivi, ils ont amené une pelleteuse, ils ont enlevé le bitume, ils ont amené de la terre. On a fait un plan avec un voisin qui est paysagiste, donc qui a sélectionné un certain nombre d'essences à planter, plutôt comestibles. Et on a fait un grand chantier participatif. De 2 week-ends, je pense, où on a mis la terre, planté des arbres. Et il y avait les enfants, il y avait les parents d'enfants, il y avait les grands-parents, il y avait toute génération. Et puis, ouais, ça, c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Ça, c'était il y a 2, 3 ans. Et voilà, après, ben voilà, les pommiers qu'on a mis, ils ont un peu du mal à. Voilà, le poirier, il a un peu de mal aussi. Donc, voilà, mais il y a les cassis, ça prend bien, les framboises, ça prend, les tomates, ça a pris. Bon, voilà, après, ça dépend de l'investissement qu'on est prêt à y faire, mais en tout cas, moi, c'est quand même bien. En tout cas, voilà, même si le jardin il n'est pas exploité tout le temps, on peut, s'il y a des gens qui ont envie de s'en occuper, on peut y planter des choses, quoi. Et ça, c'est pas mal. Et potentiellement, on pourrait planter beaucoup plus de choses, en fait, des parcelles bitumées qui servent à rien. Ou alors, au niveau du lycée Camus, là-haut, là, il y a des parcelles, il pourrait y avoir plein d'arbres fruitiers, et ça apporterait des fruits à peu près gratuitement aux gens. S'il y avait plein d'arbres, il pourrait y avoir plein de fruits gratos, alors que les fruits sont chers, sinon. Et ce qui existe est récolté. Ouais. On a réussi à faire une soupe, je pense, collectif avec des petits marrons un jour où on s'est distribué les tomates, on se partage, on se fait des cueillettes de framboises, etc. Ouais. Mais c'est à la fois c'est tout simple, hein, c'est vraiment la base de la vie citoyenne, quoi. Tu t'occupes de ton quartier juste à côté de chez toi. Et en faisant ça, tu rencontres des gens. En plus, le jardinage ou la cuisine, ça, c'est vraiment des domaines qui réunissent les gens, toute génération en général. Et si t'aimes pas jardiner et t'aimes pas cuisiner, peut-être que t'aimes bricoler. Et du coup, bah, peut-être que tu seras plutôt bon pour bricoler un truc, pour faire un support, ou alors pour creuser, parce qu'il faut creuser 60 cm de profondeur, et toi, du coup, tu vas être plus dans... Mais en fait, j'ai l'impression que tu peux facilement trouver... quelque chose à faire, il peut y avoir quelque chose à faire pour tout le monde, ouais. Ou alors sur le lien, parce que c'est toi qui vas aller faire le café, ou qui va... Il y a toujours... ça réunit beaucoup les gens. C'est vrai. Il y a toujours le rendez-vous du réverbère. Alors ça se passe sous un réverbère, un endroit qui est toujours connu au dernier moment, donc on ne peut pas révéler l'adresse précise, mais l'apéro du réverbère, ça c'est le retrouvaille de toute fin août, tout début septembre. Et cette année, il a pas mal plu, mais on a quand même mis un barnum et on a réussi à danser jusqu'à quelques 4 heures du matin au son des berruriers noirs, je crois. Donc on était contents de se retrouver après les vacances. Ça, c'est du flyer dans les boîtes aux lettres pour celui-là. Sinon, ça peut marcher en version numérique par du mailing. Du téléphone, du WhatsApp, du tout ça. Et du porte-à-porte aussi, beaucoup de porte-à-porte. Okay. Mon voisin, je sais quand c'est lui qui vient. Mm. Parce qu'en fait, il a mis un code pour frapper à la porte. Donc si on entend... 3, 2, 3, je crois. Bon. Donc ça, c'est Ropars qui vient pour amener à manger. Ah oui, parce qu'on s'amène aussi à manger souvent. Voilà, c'est... S'il a fait un phare breton qui est énorme, ben il en avait de la moitié. Et donc ici, les enfants sautent dessus et on sait qu'il a une durée de vie de 2 minutes 30, le phare. Cette semaine, on a fait un chou finlandais, parce que tous les ans, on fait un chou finlandais, parce qu'à la MAP, on a du chou. Et on a une recette de Finlande, bref. Et donc cette semaine, on a cuisiné un chou finlandais ensemble. Et puis chaque année aussi, tous les ans, tous les hivers, on fait un kick à farce, hein, parce qu'il y a plein de Bretons par ici. Donc chaque année, on fait un kick à farce. Cette année, on était au moins 16 ou un truc comme ça. Chaque année, on est plus nombreux. Donc c'est un mot breton. Kick, c'est de la viande. À farce, et farce, c'est la farce. Donc c'est à partir de farine de froment et à partir de farine de sarrasin. Et donc, en fait, c'est un plat vraiment traditionnel de l'ouest de la Bretagne, plutôt, à partir d'une espèce de potée de légumes, de différentes viandes, c'est que de la viande de porc et un peu de bœuf aussi, une sauce lipique qui est une sauce au beurre, des échalotes, pour arroser tout ça, et puis de la farce qui est délicieuse à partir de sarrasin. C'est un plat vraiment... pour passer l'hiver, ouais, c'est vraiment plein d'hiver. Donc, mais ça c'est vraiment, c'est même pas pour, ça concerne même pas tout le quartier Castor, ça c'est vraiment la rue de Kerlédé. C'est un peu c'est encore un sous-quartier dans le quartier. Parce que sinon après on serait trop nombreux, et vu que c'est l'hiver, on peut pas trop être dehors. Voilà, mais ça fait partie des rituels, ouais. Et dans les autres, alors je sais pas trop quelle tradition ils ont là-bas du quartier côté est là-bas de la cité Castor, donc vers la rue des Frères Amieux, Marange-Sylvange. Je pense qu'ils ont aussi leurs habitudes, mais peut-être qu'ils en ont moins. Je sais pas trop. Là, on a fait un sapin aussi, je sais pas si vous l'avez vu, là. Et bon, on est fin janvier, donc on a remis le sapin, qu'on a fait un sapin en bois, là, il y a quelques années, et puis bah, là, on l'a remis, tu vois. Et puis bah, du coup, bah, quand on installe le sapin, évidemment, c'est l'occasion d'aller au Boisgeau. Donc on va faire un tour au Boisgeau, en général, pareil, les enfants, et les plus jeunes et les moins jeunes, on va chercher du hou, du gui, et on ramène de quoi décorer le sapin. Voilà, puis après, on fait un vin chaud, évidemment. Etc, etc. C'est... En fait, la vie de quartier, elle s'arrête que parce que le temps nous arrête, mais potentiellement, selon les envies, les dispos, l'état d'esprit des gens, ça peut... Oui, ça peut s'étendre, beaucoup. Ouais. Là, du coup, tu peux presque être... Pas être en autonomie, mais tu peux vivre dans ton quartier. Moi, je peux vivre... J'ai pas forcément besoin de sortir du quartier pour être en relation avec les gens. Ouais. Ouais, bah, moi, j'avais imaginé monter un poulailler collectif là, vers les jardins, enfin vers les terrains du lycée Camus, mais bon, voilà. J'en ai parlé à droite, à gauche. On m'a dit attention, les vols de poules, elles vont disparaître, compliqué. Bon, je sais pas. J'ai mis de côté, mais. Ouais, parce que du coup, si tu fais forcément, si tu installes un poulailler, après, bah, il faut s'en occuper un peu. Donc, vu que tu t'en occupes, bah, tu y vas. Et donc, les gens, ils se rencontrent. Mais moi, c'est même pas que ça me... Oui, ça me tient à cœur, évidemment, mais c'est vraiment... C'est juste sûrement un besoin naturel d'aller essayer de créer des trucs qui font se rencontrer. Ça me plaît beaucoup. Ça m'enthousiasme énormément. Voilà. Eh ben, on partirait d'ici, là. On partirait rue Carlédé. Et après, par où on irait? Bon, on prendrait sûrement... tac, tac, tac. Alors, on prendrait la rue Marange-Sylvange à droite, qui est vraiment la première avenue principale des Castors. On passerait devant l'ancienne église Saint-Yves. Tac, arrivé tout au bout, on arrive sur la rue des Frères Amieux. Donc, les anciennes conserveries à mieux. On prend à gauche, on monte la rue, là, ça monte. Et puis on repique à gauche, et là, on arrive vers le lycée Camus. Et il y a toujours pas mal de jeunes à faire du sport, à courir, à se retrouver au lycée Camus. Après, il y a le petit parc du Bois de la Muse qui est sympa quand tu arrives derrière le gymnase Camus, là. Celui-là, il est bien, il y a des vieux arbres. Des vieux chênes, je sais pas depuis quand ils sont là, mais c'est l'ancien domaine du Bois de la Muse ici, donc ils ont peut-être quelques centaines d'années, certains. Et c'est un tout petit, juste à côté du lycée, c'est un tout petit bois, mais qui est assez, qui fait du bien. Et voilà, après on arrive sur Étienne Coutant, là-haut, et on arrive à Mendès-France, et puis on peut, bah ouais. Là, c'est plutôt, je dirais, plus commerçant, quoi. Pour moi, c'est plus un endroit de passage. Après, on peut descendre à Jet FM. C'est juste à côté, c'est pas loin. Et ça, c'est toujours sympa. Et surtout, et puis après, on va au Boisgeau. Et là, au Boisgeau, juste à côté là, de Jet FM, là, c'est un bois qui est très peu connu, où il n'y a pas foule. Et un petit ruisseau, on se croit vraiment en forêt. On a même pu faire de la luge, là, quand il y avait de la neige, il y a 2-3 semaines. Et voilà, puis quand t'es au Boisgeau, il n'y a plus besoin de partir. Parce que là, c'est vraiment un espace naturel. Alors, il y a toujours le bruit du périph', évidemment. Faut couper les voitures. Ça, on peut couper les voitures que quand il y a de la neige ou quand il y a le Covid. Et là, on est tranquille, ouais.